Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h19, ce soir, dans votre club des idées d'Europe 1, on s'intéresse à ces mouvements sectaires qui prospèrent avec la pandémie. La crise sanitaire a, semble-t-il, créé un terreau propice à ces dérives. On en parle avec mes invités ce soir. Marie Drillon, vice-présidente de l'UNADFI, c'est l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes, association qui lutte contre les différentes formes en fait, d'emprise mentale. Bonsoir Marie Drillon.
Bonsoir.
À mes côtés également, Nathalie Lucas, anthropologue, directrice de recherche au CNRS et directrice du CESOR, le Centre d'études en sciences sociales du religieux. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bonsoir également Serge Effèze. Vous êtes en ligne, théoriquement, si tout va bien avec nous. Serge Effèze, psychiatre au sein du groupe hospitalier universitaire Sainte-Anne à Paris. Bonsoir à vous, Serge Effèze.
Bonsoir.
Bonsoir. Un rapport a donc été remis il y a quelques jours à Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Et c'est pour ça qu'on va parler de ce sujet ce soir. Rapport de la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui met en relief l'augmentation, justement, de ces dérives sectaires à la faveur de la crise sanitaire. Alors je voudrais d'abord qu'on pose bien le débat. Quel est le constat? De quel genre de secte parle-t-on, Marie Drillon?
Alors je vous dirais que je ne parle pas forcément de secte, mais plutôt d'emprise sectaire.
Oui.
Voilà, parce qu'elle peut être exercée par une personne toute seule ou installée dans un mouvement plus important. Et en fait, qui se traduit par des ruptures sur les personnes, des ruptures personnelles, des ruptures avec l'entourage, des ruptures avec la société. Voilà.
Mais ça c'est le principe même des sectes, j'ai
envie
de dire.
C'est le principe de l'emprise sectaire.
Voilà.
Parce que si vous voulez, le mot secte, voilà,
bien
Madame
sûr.
Lucas vous le dira mieux que moi, c'est un mot qui...
Sauf que là, dans ce rapport, on met en évidence surtout c'est cette emprise sectaire qui surfe sur cette crise du Covid.
Qui s'est développée aussi parce que le processus est le même que celui... En tout cas, très proche de celui du complotisme ou de la radicalisation. Les processus d'entrée sont les mêmes. Et c'est vrai que la situation créée par la pandémie a mis des personnes dans des situations de fragilité, on comprend bien pourquoi, ou d'enfermement,
oui.
En tout cas de restriction de contact. Qui ont favorisé la recherche de solutions et de réponses et qui sont parfois tout à fait extrêmes.
Oui, on va y revenir, voilà. on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Il y a toujours eu des sectes, comme les Témoins de Jéhovah, par exemple, ou l'Ordre du Temple solaire, Nathalie Lucas, la scientologie, mais là, on parle vraiment d'autre chose qui est liée à cette crise sanitaire, qui est spécifique.
Mais écoutez, justement, on se demande un peu de quoi on parle. Les choses sont très vagues et personnellement, je n'arrive pas bien à cibler de quoi on parle. J'ai entendu qu'il y avait 500 nouvelles sectes.
Mm-hmm.
Et je ne sais pas ce que c'est, à vrai dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit actuellement autour de tout ça. Et il est évident qu'il y a une très grande déstabilisation de la population qui fait que les gens vont chercher tout azimut quelque chose qui peut soutenir une idée qui a du sens pour eux. Que ça doit entraîner des choses évidemment très fortes, mais à tous les niveaux. Mais ce dont on parle, c'est le développement personnel qui s'accélère, le coaching qui s'accélère. Et lorsque je vois ce dont on parle, ou alors, je ne sais pas, des choses de nourriture qui ont toujours existé par ailleurs, effectivement, qui n'ont absolument rien de nouveau. Et alors on nous dit, mais il y a le prix, c'est déstabilisant, soudainement ils organisent des coachings à tel prix, bon, un coaching.
Alors, ça n'est peut-être pas foncièrement nouveau, mais enfin, ça s'est quand même développé, ça, vous êtes tous d'accord avec ça.
Oui.
Et quand je disais que la crise sanitaire est un terreau propice à ces dérives, c'est parce que, Serge Effèze, parce que les Français sont plus fragiles, évidemment, en ce moment, c'est ce qu'on disait, c'est plus facile de leur faire passer des messages, on est plus à l'écoute, et ces sectes jouent sur les peurs,
Mais absolument, absolument, et particulièrement chez les jeunes, particulièrement chez les adolescents et chez les jeunes gens qui sont un peu déboussolés, qui sont déprimés, qui sont angoissés, qui sont beaucoup, beaucoup confrontés aux écrans parce qu'ils sont beaucoup plus chez eux, bien évidemment, ils sortent moins, ils sont moins en groupe. Donc ils sont évidemment des proies tout à fait désignées pour les théories du complot au sens large, c'est-à-dire pour tout ce qui va développer chez eux une méfiance, voire une sensation paranoïaque un petit peu par rapport au reste du monde. Et on sait bien que l'emprise sectaire, moi je suis tout à fait d'accord avec ce mot-là, elle se fait sur ce terreau-là, c'est-à-dire sur le fait que on convainc un jeune que tout son entourage est menaçant, que l'extérieur est menaçant et que seule l'idéologie à laquelle il est en train de s'affilier va pouvoir le sauver, le purifier et donner un sens à son existence. Alors pour ce qui me concerne, moi qui m'intéresse aux idéologies extrémistes islamistes, je vois à notre consultation de plus en plus de jeunes qui effectivement, à la faveur du confinement, se sont connectés à des sites extrémistes et qui commencent à adhérer à des idéologies qui sont extrêmement dangereuses.
Oui, ça c'est autre chose. Là, on va encore plus loin, parce que ce que vous nous disiez tout à l'heure, Marie Drillon, c'est que ces nouvelles sectes, elles envahissent beaucoup le créneau bien-être, le créneau santé. Parmi les signalements recensés l'an dernier, 41% concernent des questions de santé, de bien-être ou de médecine alternative. Hein.
Oui, alors moi, j'ai pas, au niveau de nos associations, je n'ai pas de compte de ce que les associations sont répandues.
Ça, ce sont les chiffres de la Miviludes.
Oui, ce sont les chiffres de la Miviludes.
Officiels, Miviludes, qui dépend du ministère de l'Intérieur.
Ce qui est exact, c'est que quand même, depuis un certain nombre d'années, le bien-être hein, au sens large, c'est-à-dire qu'il peut recouvrir des pratiques de soins, mais aussi du développement personnel, des propositions de gains de sa personnalité. Ça, c'est un vrai business. Ça, oui. C'est notre constat. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même beaucoup d'argent, des stages qui coûtent très cher. Et donc, il faut bien que chacun trouve sa place et donc fasse de la publicité et se mette en avant des choses qui ne sont pas forcément... par derrière, où il n'y a pas forcément les compétences. Ça, c'est
alors,
vrai.
Vous qui faites partie d'une association de défense des familles, quel est le profil des personnes susceptibles de succomber à ces messages ?
Oh ben, il n'y a pas de profil, parce que si vous voulez, c'est une réponse à quelque chose qu'en général, la personne n'a pas forcément conscience, mais elle est attirée. Hein. Faut pas croire comme ça, on lui met le grappin dessus et puis on la tire avec des ficelles, c'est pas du tout ça. Parfois, elle n'a pas conscience que là, il y a quelque chose qui l'intéresse, que ce soit de la spiritualité, que ce soit de la recherche, de la curiosité, etc.
Mais il y a quand même une fragilité, peut-être, à la
base.
Oui,
il peut, mais pas toujours. Des gens se sont retrouvés embringués dans quelque chose qui, finalement, ne les a enfermés, alors simplement par curiosité. Pour le moment, ce qui est certain, c'est que la fragilité est énorme. J'entendais Serge Effès parler des jeunes, mais nous avons entendu cette année plusieurs fois des adultes qui, à la faveur du confinement, d'éventuellement chômage, se sont progressivement coupés du monde et sont devenus complotistes, de grands complots mondiaux, avec du coup un déséquilibre de la famille aussi, parce que pression pour les enfants, pour que les enfants suivent le même régime, pour que les enfants ne se fassent pas vacciner, pour que les enfants ne portent pas de masque, etc. Et ça, c'est à la fois ces personnes-là ont trouvé des réponses à des questions existentielles. Qu'est-ce qui nous arrive avec cette crise, si vous voulez ? Et en même temps, ils ont trouvé, via Internet, une communauté virtuelle, souvent aussi.
Oui. Écoutez, je vous propose qu'on poursuive ce débat passionnant dans un tout petit instant sur Europe 1. On va continuer de parler de cette emprise, de ces dérives sectaires en cette période de crise sanitaire. Les maladies sont des points d'entrée faciles, hein, généralement, pour les auteurs de ces dérives. À tout de suite sur Europe 1. 19h30, on poursuit notre débat sur Europe 1 consacré ce soir à l'inquiétante progression des sectes en France, des dérives sectaires à la faveur de la crise sanitaire. On observe de plus en plus une convergence inquiétante entre marché du bien-être, crise sanitaire, dérives sectaires, théorie du complot. On en parle avec mes invités, Marie Drillon, qui est vice-présidente de l'UNADEFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Nathalie Lucas, qui est chercheuse au CNRS, anthropologue directrice du CESOR, le Centre d'études en sciences sociales du religieux. Et Serge Effès, vous êtes également toujours avec nous. Serge Effès, psychiatre au sein du groupe hospitalier universitaire Sainte-Anne à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que nous disait tout à l'heure Marie Drillon. Elle nous disait que finalement, ce ne sont pas forcément les personnes les plus fragiles qui sont victimes des dérives sectaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Serge Effès ?
Oui, enfin, parce que des personnes qui sont tout à fait normales peuvent être fragilisées aussi à certains moments et peuvent avoir besoin de sortir de leur, je dirais, environnement cognitif habituel. Et que, en ce moment, beaucoup de gens sont fragilisés avec la crise sanitaire. Beaucoup de gens sont sensibles au discours complotiste, et on le voit bien, hein, par rapport à démêler le vrai du faux, ne serait-ce que par rapport à l'épidémie, au traitement, au vaccin, aux actions des uns et des autres, aux différents discours qui sont énoncés. Donc il y a un flottement et une incertitude, et même les personnes, je dirais, les plus charpentées psychiquement peuvent être un petit peu fragilisées par tout ça, et donc être de plus en plus attiré, et je le vois beaucoup autour de moi, même sans parler de secte, aux différentes théories du complot qui fleurissent sur Internet. Mais pour que on parle d'emprise sectaire et d'adhésion sectaire, quelles que soient les valeurs qui sont défendues, eh bien, il faut arriver à de plus en plus à une rupture, c'est-à-dire à une rupture par rapport aux croyances habituelles, aux valeurs communes, aux valeurs de la société, aux valeurs du lien social. C'est-à-dire, il faut à la fois rompre avec le discours habituel auquel on adhère et aussi relationnellement avec votre entourage habituel. Et donc, les personnes qui cherchent à vous harponner dans cette dérive sectaire, leur première action, c'est de vous couper de votre environnement, de votre famille, de vos amis, de vos activités habituelles.
Et ces personnes, elles ont un terrain rêvé, ce sont les réseaux sociaux, hein, puisque c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps en ce moment sur Internet en général, sur les réseaux sociaux en particulier. Nathalie Lucas, depuis le début de la crise, le trafic Internet mondial a augmenté de 70% dans les régions du monde confinées.
Oui, c'est très sûr, mais lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas coupé de sa famille, on est quand même avec elle.
On est un peu dans une bulle quand même.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais ceci dit, voilà, on est quand même dans sa famille, on ne part pas dans ce qu'on appelle la secte, à savoir où on part dans un groupe qui nous enferme. Et je crois quand même qu'il faut noter cette différence, parce que les jeunes vont là-dessus, mais les jeunes zappent énormément, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils vont... Pour la majorité d'entre eux, parce que bien évidemment, il y en a qui vont aller très loin, qui vont être totalement déstabilisés, qui vont s'enfermer. Et même sans ça, on voit aujourd'hui des jeunes qui deviennent anorexiques, qui deviennent... Il y a une vraie fragilité de tout le monde, de toute la population qui souffre de ce que nous vivons actuellement.
Ouais.
Là-dedans, évidemment, dans les réseaux sociaux, il y a de tout. Et on est beaucoup d'entre nous sommes en train de regarder ça en essayant de trouver comment donner sens. Si les gens vont voir ces réseaux, si les gens vont voir ces conspirationnistes, c'est parce qu'ils cherchent du sens. Alors évidemment, vous avez des discours apocalyptiques, mais quelque part, vous l'entendrez très facilement autour de vous. On a l'impression de vivre l'apocalypse, on change totalement de régime de vie. On a l'impression qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après. Donc forcément, ça va donner corps à ceux qui, avant, avaient ce genre de discours. Donc ce qui se passe, c'est pas que soudainement, il y a des choses nouvelles, c'est que ce qui existait déjà de façon latente se renforce forcément et sont plus vus, vu que les gens n'ont rien d'autre à faire.
Oui. On a l'impression, Serge Fesse, qu'avec Internet, finalement, c'est pire qu'avant. On peut être endoctriné, seul, chez soi, parce que bêtement, on se dit, bah, vu qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut voir personne, ça doit être plus compliqué de se faire embrigader. Ben non.
Non, c'est pas, au contraire, c'est beaucoup plus simple parce que les gens sont effectivement beaucoup plus confrontés à Internet dans la solitude en général de leur chambre et ça crée une véritable bulle cognitive. Et effectivement, je suis d'accord pour dire que c'est pas la même chose de partir dans une secte et d'être complètement coupé du monde extérieur, mais tout de même, cognitivement, psychiquement, mentalement, vous avez, alors moi je parle des jeunes parce que je m'occupe principalement de jeunes, mais ça peut être aussi chez des adultes, le fait de vous couper psychiquement et cognitivement des autres peut tout à fait se faire alors que le reste de votre environnement est dans l'appartement et dans le salon à 30 cm de vous. Et quoi qu'il fasse, et je vois des tableaux absolument catastrophiques de jeunes qui sont totalement coupés des réalités, totalement coupés de leur environnement alors qu'ils continuent à cohabiter avec leur entourage et avec leur famille.
Vous vouliez compléter ce
oui,
propos, Nathalie Lucas.
Je pense que M. Fesse parle plus justement des processus de radicalisation. Mais je voudrais quand même ajouter que pour y avoir un peu étudié tout cela, ce dont on s'aperçoit, c'est que certes, les gens sont happés par des réseaux sociaux, mais que si ensuite il n'y a pas un groupe avec un meneur auquel adhérer, ça se défait quand même un peu. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi qu'il y ait quelque chose de physique qui donnent corps à cette adhésion par Internet. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, où ils ont besoin d'autre chose.
Oui, je voudrais comprendre comment ça se matérialise. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ça, Nathalie Drillon. Ce sont quoi ? Ce sont des influenceurs, des groupes de discussion, Marie Drillon ?
Je voudrais juste compléter. Je trouve quand même que, à la faveur de cette dernière année là, la notion de communauté virtuelle, je ne sais pas si c'est très bien de le dire comme ça, mais a beaucoup compté, entre autres avec les chaînes YouTube qui ont eu énormément de vues. Et dans l'anxiété individuelle, se retrouver avec un groupe qui pense comme vous et qui défend les mêmes positions, c'est pas la même chose que le physique, je suis d'accord. Mais dans l'époque actuelle, ça a remplacé ce qui aurait peut-être été différent si les étudiants pouvaient être encore ensemble à la faculté, si on pouvait se retrouver pour prendre des cafés de temps en temps et avoir une communauté physique, quoi.
Voilà. La question est de voir le niveau de dangerosité effective, oui, tout à fait. Fait même de se regrouper dans une communauté de croyance sur Internet.
Là, on parle de celles, qui sont quand même à la base. Enfin, moi, ce dont je parle, là, c'est celles qui transmettent des messages quand même qui sont des messages faux. Hein. On parlait de l'esprit critique tout à l'heure, mais des fake news. Et donc, qui les multiplient et qui montent en puissance intérieurement avec des peurs personnelles qu'on aurait... qu'il faut essayer, en tout cas, de calmer, d'apaiser et pour revenir à quelque chose de plus sensé.
Si vous parliez de YouTubeurs tout à l'heure. C'est vrai qu'il y en a un, notamment le plus célèbre. On ne va pas donner son nom ce soir, on ne va pas donner des idées, mais c'est celui qui a été le plus signalé à la Miviludes. Sa chaîne YouTube a 525 000 abonnés. Il ne croit pas à la vaccination, il ne croit pas aux médicaments. Il conseille des jus de légumes ou de faire du trampoline pour faire bouger la lymphe. C'est grave, des choses comme ça, Nathalie.
Il ne croit pas forcément au virus, d'ailleurs, non Marie-Lion, plus, ni aux maladies.
Vous voyez de qui je parle, donc.
Oui, bien sûr, ces propos c'est n'importe quoi. On est tout à fait d'accord avec ça. Bon, après, ce qu'il faut voir, c'est le nombre de personnes qui suivent rigoureusement ce genre de choses, qui y croient rigoureusement, ceux qui écoutent. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre ceux qui adhèrent pour des abrutis, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se faire entraîner parce que pour des tas de raisons qui peuvent quand même être largement... dépasser la situation de Covid que nous vivons. Mais il y en a beaucoup qui vont écouter ça, regarder ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérive.
Oui.
Mais je voulais juste vous attirer votre attention sur les chiffres. Combien y a-t-il réellement de dérives avec ce genre de réseau social et avec ce genre de YouTubeurs? C'est moins sûr. Il y en a beaucoup qui le regardent, il y en a beaucoup qui écoutent, qui vont suivre à la...
Mais tous n'adhèrent pas forcément, voilà. Et Dieu merci, ne mettent pas leur santé en danger. Je voudrais qu'on prenne un témoignage en ligne, si vous le voulez bien. Bonsoir Lucas Le Gall.
Bonsoir.
Alors vous, votre histoire, elle est complètement différente de tout ce qu'on vient de parler, mais elle est quand même très intéressante. Vous avez été enrôlé au sein de l'Église de Scientologie. Vous racontez ça dans un livre intitulé « Un milliard d'années » aux éditions du Cherche Midi. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Vous avez été enrôlé, en fait, par votre famille quand vous aviez 10 ans. Et vos parents, dites-vous, avaient des failles psychologiques et affectives profondes. C'est ça qui explique qu'ils se sont fait « alpaguer » entre guillemets par la Scientologie ?
En ce qui les concerne, oui, mais non. Moi, je suis assez d'accord avec le fait que, à un moment ou à un autre dans un parcours de vie, comme ça vient d'être dit, à un moment ou à un autre dans un parcours de vie, c'est vrai, on est tous abrutis de quelqu'un, mais on peut être tous le faible aussi de quelqu'un à un moment ou à un autre.
Ouais.
Donc je ne crois pas qu'on puisse décrire les clients ou les adeptes des sectes comme étant des gens particulièrement stupide, particulièrement prompt à gober n'importe quoi, et plutôt comme des gens qui, effectivement, à un moment ou à un autre, sont en désespérance et qui n'ont pas abandonné l'espoir. Et c'est une vraie question, cette question de l'espoir. C'est, est-ce qu'on doit maintenir un espoir coûte que coûte, comme ça l'est dit par le politique, comme ça l'est dit dans l'éducation, ce qu'on dit à nos enfants. Est-ce que tout va bien toujours? Est-ce que le réel ne peut pas être difficile? Et est-ce que il ne s'agit pas d'adopter ou de s'adapter au réel tel qu'il est?
Oui, parce que ce que vous expliquez très bien, c'est que au début, on y trouve des bénéfices. C'est même plutôt sympa. Ça nous redonne du sens à la vie.
On pourrait trouver des bénéfices, oui. Alors, on trouve des choses qui font écho à voilà, parce que en fait, aucune secte ne dit, ne prône de messages totalement ineptes. Hein, on y parlera toujours d'amour, de monde meilleur, de félicité, d'aller mieux, et ça parle à tout le monde. Maintenant, la question de est-ce que c'est possible? Vous savez, les sectes, c'est pas nouveau. Hein. Les millénaristes, on a eu peur du changement de millénaire. L'essor des sectes au moment de la peste est colossal. On le retrouve au moment de la grippe espagnole. On le retrouve au niveau de la pandémie. Moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui va se passer quand vraiment la planète va commencer à se dérégler et qu'il n'y aura plus de flotte et qu'il fera très chaud? Là, je crois que les mouvements sectaires seront d'une ampleur qui sont inimaginables encore aujourd'hui.
C'est intéressant ce que vous dites. Comment vous réagissez autour de la table, Marie Drillon ou Nathalie Lucas, à ce que vient de dire
Mais je le trouve très juste. Je le trouve très juste. Et évidemment, plus le monde va mal, et plus le besoin de donner sens, le besoin de garder espoir est grand, et qu'à un moment dire, peut-être on peut aller mal. C'est pas grave d'aller mal. On peut reconnaître aux gens leurs faiblesses et qu'ils vont mal, sans leur dire non, mais demain vous allez aller mieux. Parce que ça, c'est exactement la civilisation dans laquelle on vit, nous impose d'aller bien, nous impose du bien-être, nous impose tout ça. Et après, on s'étonne qu'il y ait des groupes qui en profitent. Mais plus on ira mal et plus on dira non, mais vous devez aller bien là, il faut que vous fassiez ça, c'est le positive thinking, vous allez y arriver, plus il y aura des groupes qui rebondiront dessus pour dire oui, on va vous aider à aller mieux. Et en fait, on n'aide pas à aller mieux parce que des fois, ça ne va pas bien et qu'au contraire, il faut accepter que ça aille mal. Et donc, pour moi, ce n'est pas un problème de secte, c'est un problème de société. Il faut changer quelque chose, y compris dans notre éducation, pour faire admettre aux gens que, leurs parents, ils peuvent aller mal, ils peuvent avoir des vraies douleurs et en fait, ça va mal. Là, aujourd'hui, ça va mal. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de la crise, on n'a pas de solution miracle, on ne sait pas exactement si le vaccin il va marcher, on ne sait pas. Mais ça, c'est quasiment inaudible. Donc du coup, on a un autre discours, et ce discours a des conséquences, c'est que les gens se disent « Ah tiens, il nous a dit ça, que les masques ça ne marche pas. » Ce n'est pas vrai, pourquoi celui-ci n'aurait pas raison? À partir du moment où l'État, les politiques, la société ne sait pas dire « je ne sais pas » et « on va mal », eh bien du coup... On donne un faux espoir ou on donne une ligne de conduite. Et comme cette ligne de conduite ne marche pas forcément, on donne la possibilité à d'autres lignes de conduite de prendre le pouvoir, de prendre de la force. Et ce jeune homme, cette personne a raison. On n'est pas au bout des crises. les groupes apocalyptiques ne vont pas s'arrêter demain. Les vendeurs de bien-être ne vont pas s'arrêter demain parce qu'on est dans une société où on vous dit qu'il faut chercher le bonheur tout le temps. Où on vous dit dans certaines émissions « Ah mais le bonheur, c'est de prendre une tasse de thé en se levant le matin ». Donc le bonheur existe, on doit le chercher. Si on ne l'a pas, ça veut dire qu'on n'est pas au bon endroit.
Serge Effèze, vous validez ce que vient de dire Nathalie Lucas?
Oui, tout à fait, au sens où les adhésions de type sectaire, en tout cas se mettre sous l'emprise d'un discours, se relève toujours de l'angoisse et de la peur. C'est-à-dire que les sectes fleurissent sur les angoisses personnelles et sur les peurs de chacun en donnant des discours, effectivement, qui promettent la rédemption, qui promettent la pureté, qui promettent le bien-être, qui promettent le bonheur éternel et qui promettent de sortir de cette angoisse existentielle. Et par rapport à cela, j'aimerais quand même insister sur le fait que aujourd'hui, on n'a plus besoin d'entrer physiquement dans une secte fermée qui va vous promettre le bonheur pour être dans cette emprise, que les communautés virtuelles ont exactement la même force d'emprise que les communautés réelles, et que malheureusement, je vois de plus en plus de jeunes qui se reconnaissent dans des communautés avec des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées physiquement, mais qui ont une force de conviction largement aussi forte que les communautés réelles. Et c'est ça qui m'apparaît le plus problématique à l'heure actuelle, c'est que, d'une certaine façon, le mal est partout. Enfin, la possibilité du mal est partout, et que c'est beaucoup plus difficile de l'appréhender que lorsque on va interpeller un groupe de personnes qui ramènent chez eux des brebis égarées.
Marie Drillon,
Oui, je crois que c'est très vrai. C'est l'évolution de la société fait qu'on est aujourd'hui dans une société... Moi, je ne sais pas, en fait, qui dit qu'il faut que... il y a le bien-être, mais en tout cas l'ensemble de c'est ça. Est-ce que c'est la suite des années des 30 glorieuses et donc d'une espèce de d'utopie de monde parfait où tout le monde serait au top de son niveau alors que c'est pas la réalité, que voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et on a oublié de le dire, je pense, ça c'est tout à fait exact. Mais il y a aussi des vrais problèmes de société et des problèmes d'éclatement, si vous voulez. Je pense que certains ne savent pas à quoi se raccrocher. Bon, voilà, je fais ce constat-là. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il faut apporter compte, si ce n'est que tous, les uns et les autres, on puisse d'abord se rendre compte que ça peut donner des drames. Ça n'en donne pas. Bien sûr, tout le monde n'en a pas. Bien sûr, il y a des gens qui regardent ces vidéos sans rien. Mais il y a aussi ce jeune homme qui a terminé à l'hôpital psychiatrique parce que, en boucle. Donc, d'avoir une vigilance et de se dire bah, regardez aussi ce qui se passe sur celui d'à côté, pas sur la personne d'à côté, et pas le j'en ai rien à faire. Mmh. Et essayer éventuellement de dire mais d'alerter. Après, des adultes, ils sont libres.
Voilà. Oui, bien sûr.
Mais alerter, être vigilant et protéger aussi les enfants, parce que dans ces mouvements-là, les enfants sont souvent ceux qui trinquent.
Alors justement, on va reprendre en ligne Lucas Le Gall. Je le disais, vous avez été enrôlé au sein de l'Église de Scientologie. Vous racontez tout ça dans un livre, Un milliard d'années, aux éditions du Cherche Midi. Vous écrivez dans ce livre que donc vous avez à peu près 11 ans et demi, vous êtes à l'école hein, de la Scientologie. Vous étiez un bon soldat, vous n'aviez pas l'esprit critique. Vous étiez le parfait adepte, dites-vous. Et pourtant, vous êtes aujourd'hui le parfait exemple, la preuve qu'on peut s'en sortir. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez commencé à douter, que vous êtes dit, finalement, c'est pas le paradis, ce truc-là. Hein.
L'observation, c'est-à-dire, en fait, la différence... Alors, il se trouve que, en raison de la nature de mes parents, de mon éducation, j'étais relativement sceptique en face de l'autorité. Et en fait, j'étais pas persuadé que mes parents avaient toujours raison, loin s'en faut. Mm-hmm. Et puis, un peu plus tard, je me retrouve, en fait, dans un mouvement où on dit... on va aller mieux, on est les messagers du bonheur, etc. Et moi, je constate assez vite, à ce moment-là, je suis dans une organisation à Copenhague, c'est assez dur.
Et parce que vous avez beaucoup voyagé avec l'Église de Scientologie, vous aviez des fonctions importantes, hein. Vous n'étiez pas un adepte lambda, entre guillemets, hein, pour aller vite.
Je suis devenu le bon petit soldat, en fait, vous voyez, on pourrait se rapprocher des jeunesses hitlériennes ou staliniennes, j'étais le bon petit exemple, quoi. Bref, donc j'étais au Danemark et je voyais bien que les gens étaient heureux. Qui se chamaillaient sans cesse, qui s'envoyaient à la figure sans arrêt des bribes de théorie pour se contraindre les uns les autres, qui n'étaient pas en collaboration, et puis physiquement, qui n'allaient pas bien, en fait. Et donc, c'était assez curieux d'être dans un endroit qui aurait dû être l'Éden, et de me retrouver finalement aux portes de l'enfer. Donc, ça a commencé à implanter un doute assez sérieux. Et puis, il y a eu un moment, alors qui est arrivé plus tard, quand j'étais donc en Californie, et j'étais juste en dessous du numéro 1 de la Scientologie. Donc,
oui, vous étiez très très haut dans la hiérarchie de la Scientologie à cette époque-là. Hein.
Ah oui. Oui, je suis monté comme lieutenant direct de David Miscavige, qui était le patron de la Scientologie et qui est le meilleur ami de Tom Cruise. Ouais. Encore une fois, hein, sur un malentendu, c'est-à-dire sur l'idée que j'avais la gueule de l'employeur, on va dire. Et puis que j'étais jeune, et donc malléable. Et à ce moment-là, on me confronte dans mon système de valeurs à quelque chose qui m'est insupportable, que je ne peux pas franchir. À partir de ce moment-là, je fais dissidence. À partir de ce moment-là, la rupture est consommée, en tout cas psychiquement, entre qui je suis... et ce qui est prôné dans la secte. Bon, il se trouve que moi, j'ai cette chance d'avoir été rétif dès le départ et sceptique, je dirais, relativement à l'autorité. Ça concerne, vous savez, il y a l'expérience de Milly Graham le démontre assez bien. Ça concerne 25% environ de la population. On ne l'explique pas très bien. Bon, il se trouve que j'étais rétif à l'autorité. Bien
et c'est ça qui vous a sauvé, finalement. Hein, qui vous donné la volonté, la force de partir, parce que vous aviez 17 ans, vous n'aviez pas de passeport, vous n'aviez pas d'argent, et vous avez dit « Ciao, j'arrête, quoi ».
Oui, enfin voilà, je me suis évadé le jour de mes 18 ans, effectivement, mais en récupérant, en volant mon passeport, et puis en récupérant un peu d'argent pour prendre un avion, effectivement. Mais si vous voulez, le processus était déjà engagé, il était un processus de défiance relativement à ce que représentait l'autorité. Et tout ça, en fait, était venu par petite lézard, par construction, si vous voulez, d'une faille qui s'agrandissait et qui s'est, définitivement concrétisé au moment où j'étais mis en face d'une impossibilité dans mon système de valeurs pour moi.
Ouais, parce que vous aviez une sacrée force de caractère et vous n'étiez pas si jeune que ça, peut-être jeune dans votre âge, mais pas jeune dans votre tête. Merci pour ce témoignage très fort, hein, Lucas Le Gall. Serge Effèze, il faut avoir énormément de force, on l'entend, hein, pour être capable de faire ce qu'il a fait, Lucas Le Gall. Hein.
Oui, tout à fait. Mais il faut voir que, encore une fois, la force, le bien-être, etc., ne sont pas constitutifs éternellement de chacun de nous. On a tous des moments d'inflexion, des moments d'angoisse, des moments de doute, des moments de dépression tout au long de notre vie. Il y a des moments où on peut résister et des moments où on ne peut pas. Que ce moment est un moment de fragilité particulier pour tout le monde, hein, et moi j'entends de plus en plus de gens qui sont au bord du burn-out à l'heure actuelle avec la crise sanitaire et qui donc demandent cette vigilance. Mais effectivement, il a raison, on n'est pas tous égaux par rapport à la façon dont on va adhérer à un certain nombre de croyances.
Juste, il nous reste une minute. Est-ce qu'on peut faire quelque chose quand on sent qu'on a un proche qui est pris dans ce piège, hein, de secte ?
Il faut toujours parler, il faut toujours essayer d'être en contact. Ce qu'a dit ce jeune homme à ce niveau-là est encore intéressant, c'est-à-dire que l'attitude des parents avant même qu'il rentre dans la secte lui a donné cet esprit critique. Si vous enseignez l'esprit critique à votre enfant à un moment ou un autre, même s'il rentre dans une secte réellement, à un moment ou un autre, ça fait un déclic.
Ça va revenir.
Si on ne lui a pas donné cet esprit critique, il ne l'a pas. Donc,
il faut avoir les clés, finalement. C'est comme tout dans la vie. Oui. Merci infiniment. Merci pour ce débat passionnant et terriblement inquiétant en même temps. Merci à vous de m'avoir accompagnée.
Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.